Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 30 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notre système nerveux et de l'importance qu'il joue dans notre qualité de vie, notamment dans notre gestion du stress et de l'anxiété. Je suis tombée il y a quelques mois sur le compte de Véronique Desnoyers qui parle justement de l'anxiété et de comment le système nerveux est impliqué là-dedans, de comment cet état d'anxiété peut nous empêcher d'accéder et d'exploiter les ressources qu'on trouve habituellement en dev perso, comme la méditation, comme l'introspection, la visualisation ou encore les pensées positives. En fait, elle dit qu'avant toute chose, avant de vouloir commencer à travailler sur soi, il faut déjà s'assurer d'être dans un état où on peut le faire, et ça veut dire d'être dans un état de réceptivité, un état qui nous permet de construire, de rêver, un état serein, qui est l'inverse en fait de l'état de survie, d'anxiété, pendant lequel on va être constamment dans la réaction plutôt que l'anticipation, dans laquelle on va être soumis au stress, on va être plus agressif et moins concentré. Et donc ce qui définit dans quel état on se trouve, c'est notre système nerveux. En fait, en développement personnel, on a tendance à dire que justement les méditations, l'introspection, etc., ça va permettre de basculer dans cet état. Mais ici, l'approche, elle est différente, c'est-à-dire que c'est vrai si ton système nerveux il est régulé et que tu n'as pas de mal pour basculer d'un état à l'autre. Mais si ton système nerveux il est dérégulé, pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ces exercices, il faut d'abord avoir fait l'exercice de savoir basculer dans cet état, et ça passe par savoir réguler son système nerveux. Donc voilà, je trouve que le concept est super intéressant, j'espère que c'est à peu près clair, de toute manière je vais rentrer dans le détail, et donc l'objectif de ce podcast c'est de vous expliquer grossièrement à quoi sert le système nerveux, comment il fonctionne, quel est le lien entre votre système nerveux et votre niveau d'anxiété, et surtout quels sont les outils pour apprendre à le réguler et pour ensuite vous permettre de profiter de tout le travail que vous faites sur vous-même. Donc le système nerveux, qu'est-ce que c'est? On peut considérer que c'est un peu le centre de contrôle de notre corps. Il est composé du système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, et du système nerveux périphérique, qui est composé de l'ensemble du réseau de nerfs de notre corps. Donc le système nerveux, il est responsable de la coordination des actions avec l'environnement extérieur et de la communication rapide entre les différentes parties du corps. C'est comme un immense réseau d'autoroutes qui parcourt tout notre corps et qui fait circuler et qui traite toutes les informations internes et externes. Donc il exerce un contrôle sur l'ensemble du corps qui se traduit par des actes volontaires ou involontaires, des sensations qui sont conscientes ou inconscientes. Et donc il va gérer les informations sensorielles, il va coordonner les mouvements musculaires, il va réguler les fonctionnements des autres organes, il va aussi réguler les émotions et il est considéré comme le siège de l'intellect. En bref, tout ce qu'on ressent, toutes nos réactions sont contrôlées par le système nerveux. Donc le système nerveux est au cœur de notre expérience humaine et du coup on imagine bien l'importance d'avoir un système nerveux qui est régulé, qui nous permet de traiter correctement les informations qu'on reçoit sans cesse. Et il y a deux minutes, j'ai dit qu'on pouvait parler d'actes volontaires ou involontaires, et donc quand je dis involontaire, ça va être par exemple le cœur qui bat, le fait de respirer ou de cligner des yeux, qui sont des choses qu'on fait absolument sans y penser, sans avoir besoin de réfléchir. C'est important, je reviens dessus, parce que ça veut dire que le système nerveux et notre logique, notre mental, ne jouent pas du tout sur le même plan. Et ça veut dire que changer notre système de pensée, travailler sur le mental avec des méditations, d'introspection, ce que je vends moi dans mes podcasts, ça ne va pas forcément, en tout cas pas rapidement, agir sur le système nerveux quand il est dérégulé, parce qu'ils ne sont pas sur le même plan. Et donc pour réguler son système nerveux, l'idée c'est pas de travailler sur le mental, mais de travailler sur le corps. Et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard, pour l'instant je vais expliquer un petit peu comment fonctionne le système nerveux. Donc le système nerveux, il est composé de trois branches, le système sympathique, le système parasympathique ventral et le parasympathique dorsal. Donc le système parasympathique ventral, c'est le système qui est censé être le plus courant, qui représente la sécurité, la stabilité et qui permet donc l'engagement social. C'est l'état de repos qui va permettre la relaxation, la digestion, l'échange, la confiance, le bien-être. Et puis ensuite, on a deux autres états qui sont des états plus anciens, plus primitifs et qui vont être des états réactifs, des systèmes de défense face à un éventuel danger. Donc le système sympathique, lui, c'est le système de l'action, de la mobilisation, qui va se traduire par le besoin de combattre ou le besoin de fuir. Donc activer le système sympathique, ça va engendrer la production d'adrénaline et de cortisol, qui sont connus comme étant les hormones du stress. Donc c'est un système qui génère un sentiment de frénésie, de chaos, d'anxiété. C'est ce sentiment d'être submergé par ses pensées. Il peut générer des tensions dans le dos, dans le cou. Le rythme cardiaque s'accélère, la pupille se dilate, on respire plus fort, on transpire, la tension monte et la digestion, elle, va ralentir. Donc si on reste trop longtemps dans cet état, on peut avoir des douleurs diverses, des problèmes de digestion, de sommeil, de l'hypertension artérielle. On peut devenir irritable, angoissé, toujours sur le qui-vive. Et puis ensuite, le deuxième système de défense, ça va être le système parasympathique dorsal, qui est lui le système le plus ancien, et c'est le système de l'immobilisation, de la paralysie. Vous avez déjà dû voir un animal qui fait le mort face à un prédateur, donc là c'est tout à fait ça, c'est le système parasympathique dorsal qui prend le dessus. Donc on fait appel à ce système en général en dernier recours lorsqu'on se sent piégé, impuissant, par exemple face ou suite à une agression, on peut tomber dans un état de sidération, de dissociation ou avoir des troubles de la mémoire. C'est également ce qui se passe quand on fait un burn-out par exemple, là on est vraiment dans cet état d'immobilisme et de paralysie. Donc c'est un état dans lequel on va se sentir seul, désespéré, abandonné, épuisé et dans lequel on va plus avoir envie de rien faire. Il n'y a plus de but, il n'y a plus de motivation, on est détaché de tout. Et là attention, hein, on ne parle pas juste d'avoir un peu la flemme de se lever le matin, mais bien d'un état de vide profond. Donc voilà, c'est une idée générale des trois états du système nerveux. C'est normal au cours de sa vie et même de sa journée de passer sur les trois états. C'est absolument sain de basculer d'un état à l'autre. On ne peut pas rester toute sa vie dans le système parasympathique ventral. On doit passer d'un état à l'autre en fonction de ce dont on a besoin dans la journée. Chacun a son utilité. C'est sain tant qu'on revient régulièrement au système parasympathique ventral, donc le système de repos. Là, tout va bien. Notre système se régule naturellement. Le problème, ça va être quand on sursollicite notre système nerveux avec des signaux de danger. Donc la théorie polyvagale qui a été proposée par Stéphane Porges exprime que lorsqu'elle est mise au défi, la régulation du système nerveux autonome se dégrade séquentiellement vers des circuits plus anciens comme une tentative adaptative de survie. Donc en gros, on va passer du système parasympathique ventral au système sympathique, voire au système parasympathique dorsal. Et donc on bascule sur ces systèmes de défense et parfois on peut y rester bloqué, on n'arrive plus à rebasculer vers le système parasympathique ventral parce qu'on est constamment bombardé d'informations que notre système nerveux juge dangereuses. Et attention, ici on fait bien la distinction entre le système nerveux et le mental. Le mental, lui, il va juger en conscience, en fonction de ce qu'il perçoit, il va raisonner avec logique. Le système nerveux, lui, il va réagir grâce à ce qu'on appelle la neuroception. Donc c'est une évaluation automatique des risques qui ne fait pas appel à notre conscience mais à nos neurones. Et c'est ce qui va générer l'augmentation du rythme cardiaque ou la sensation de nœuds dans l'estomac. Donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir traiter avec le mental, mais bien avec le corps. Donc même si votre tête, elle pense que vous êtes en sécurité, votre corps, lui, il peut avoir l'impression de ne pas être en sécurité. Et donc c'est ce qui va générer, par exemple, les bouffées de chaleur, le stress, etc. Donc le risque, quand on est bloqué dans ces états, c'est d'être constamment bombardé d'hormones du stress, comme l'adrénaline ou la cortisol, et du coup de plus avoir la capacité de les synthétiser correctement. Donc on a constamment dans le corps un niveau plus ou moins élevé d'hormones de stress. Ça peut évidemment causer des problèmes de santé et puis ça dégrade aussi notre capacité à nous concentrer, à réfléchir, notre capacité à nous projeter, à rêver, à s'introspecter. Et on n'est plus dans la créativité, on n'est plus dans l'espoir. On ne peut pas parce que notre corps est dans un état de survie permanent. Il considère H24 qu'il est en danger et qu'il doit se concentrer sur sa survie. Et dans ces conditions, on ne peut pas travailler correctement sur soi, on ne peut pas prendre soin de soi. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler avec le mental en transformant ses pensées, parce que le mental et le système nerveux ne jouent pas sur le même plan. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se jouer au niveau du corps pour réapprendre à notre système nerveux à interpréter correctement les signaux qu'il perçoit. Donc en gros, l'idée, c'est pas de plus être stressé, mais d'avoir une meilleure tolérance aux signaux de danger pour ne pas constamment basculer dans un état sympathique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour réapprendre à basculer dans un état parasympathique ventral? Vous allez voir, il y a pas mal d'astuces assez simples à mettre en place, comme des respirations, des petits exercices qu'on peut faire facilement et qui sont là pour aider à faire redescendre le niveau de stress quand on sent qu'on perd le contrôle, qu'on panique. Et puis il y a aussi tout un pilier sur les habitudes de vie, l'hygiène de vie, qui est plutôt là pour habituer son système nerveux à repasser régulièrement en mode parasympathique ventral et donc en mode repos, stabilité, sérénité. C'est ce qui va permettre d'augmenter sa fenêtre de tolérance et de mieux répondre aux différents stimuli qu'on reçoit dans la journée. Donc là, on va commencer par cette partie-là, cette partie habitude de vie. On verra qu'on n'a pas le temps d'aborder la deuxième partie, mais je ferai un deuxième épisode pour la partie réaction à des montées de stress et de panique. Donc en gros, toutes les habitudes qu'on va mettre en place, ce sont des habitudes qui permettent de se reconnecter à son corps et de remettre de la conscience dans notre activité. Donc aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à trouver normal que notre corps nous soutienne dans tout ce qu'on fait, nous permettre de faire tout ce qu'on a envie de faire, et pourtant on ne prend pas vraiment soin de nos corps. On reste réveillé pour regarder un dernier épisode alors qu'on est fatigué, on n'écoute pas sa faim, ce qui nous amène à manger trop, ou alors au contraire à sauter des repas parce qu'on est occupé, on oublie de boire régulièrement. Et si on était dans une relation avec notre corps comme on l'est avec un humain, pour beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps que notre corps nous aurait quittés à force de se sentir délaissé, ignoré, utilisé. Et donc pour se remettre à écouter ses besoins, ça commence par le fait de faire des scans réguliers de son corps pour se demander ce dont il a besoin. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai des douleurs? Comment je me sens à l'intérieur de mon corps? Et ça va nous amener du coup à nous poser la question de notre posture. Comment est-ce que je me tiens? Est-ce que je me recroqueville sur moi-même? Est-ce que j'ai les épaules relevées, voûtées? Est-ce que j'ai la mâchoire crispée? La posture est extrêmement importante parce qu'elle envoie un signal aux autres, certes. Elle a un impact sur la manière dont les autres nous perçoivent, mais elle envoie aussi un signal au cerveau. Quand on est voûté et recroquevillé, c'est une position de défense. Et donc on envoie au cerveau le signal que nous sommes en mode défense. Et donc il est nécessaire de garder le système sympathique activé. En prenant l'habitude de se redresser, d'ouvrir ses côtes, de relever la tête, on envoie au cerveau un signal d'ouverture, d'engagement, qui est un signe positif pour redescendre au niveau du système parasympathique ventral. Et du coup, ça va être intéressant aussi de prendre l'habitude de s'étirer régulièrement. L'étirement fait beaucoup de bien au corps, il permet de relâcher les pressions, il permet de se réhabituer à avoir des sensations dans le corps, à sentir que ça tire, à sentir que ça relaxe. Et en général, quand on s'étire, assez naturellement, on va aussi respirer. Donc respirer, c'est un autre axe hyper important pour renouer avec son corps, c'est de prendre conscience de sa respiration, reprendre l'habitude de le faire profondément, de vraiment faire circuler l'air en nous. Et là, vous pouvez faire un petit exercice, vous mettez le doigt sur votre jugulaire, dans votre cou, pour sentir votre pouls. Et vous inspirez profondément, puis vous expirez profondément. Et normalement, vous allez vous rendre compte que lorsque vous inspirez, votre rythme cardiaque va avoir tendance à s'accélérer un petit peu. Lorsque vous expirez, il va ralentir. Et si vous avez du mal à le sentir sur vous-même, vous pouvez essayer en mettant votre oreille sur la poitrine de votre chérie, par exemple. Donc en tout cas, c'est pour expliquer que lorsque vous expirez, vous alternez entre l'activation du système sympathique à l'inspiration et du système parasympathique à l'expiration. C'est un équilibre naturel, mais du coup, lorsque vous avez un système dérégulé, apprendre à souffler régulièrement, à rallonger ses expirations par rapport à ses inspirations, c'est vraiment bénéfique. Ça aide le corps à ralentir, à se relaxer. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en vous étirant, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire tout au long de la journée. Dès que vous y pensez, vous prenez une grande inspiration, une longue inspiration, et vous répétez ça 2 ou 3 fois. C'est vraiment simple à mettre en place, ça vous permet de remettre de la conscience sur des mécanismes automatiques de votre corps, et donc de renouer avec votre corps et avec vos sensations. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre en place une petite routine le matin, par exemple, vous prenez entre 5 et 10 minutes, et vous prenez le temps de vous étirer. Et en vous étirant, vous allez pouvoir prendre le temps de respirer, prendre le temps de scanner votre corps, prendre conscience de votre posture, vous redresser. Et puis en fait, en 5 à 10 minutes, vous avez déjà mis en place plusieurs habitudes très simples qui seront très bénéfiques pour votre système nerveux. Et puis vous pouvez aussi mettre un timer, par exemple, toutes les 2 heures, si ça ne vous plaît pas, la petite routine matinale. Si vous avez un travail sédentaire, ça peut être vraiment intéressant. Et puis toutes les 2 heures, vous vous levez, vous respirez un bon coup, vous étirez un peu les bras, la nuque, vous scannez votre corps. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai froid? Vous répondez à ce besoin. Et vous allez voir que ça va vous aider à mieux vous concentrer ensuite, à mieux vous sentir dans votre corps. Et sur le long terme, ça peut vraiment avoir des impacts positifs. Ça permet vraiment de se reconnecter à ses sensations et à son corps. Ensuite, 2 autres axes, ça va être le sommeil et l'exercice physique. Le sommeil, pour commencer, est indispensable à une bonne santé de votre système nerveux. Si vous ne dormez pas, ou si vous dormez beaucoup mais que vous êtes toujours fatigué, c'est que votre système nerveux ne parvient pas à repasser en parasympathique et donc empêche une bonne qualité de sommeil. Et qu'est-ce qui peut vous aider sur ce sujet? Déjà, les écrans et la consommation de contenu en tout genre avant d'aller dormir, c'est une très mauvaise habitude. La lumière bleue et les contenus qui vous stimulent vont activer votre système nerveux au lieu de l'apaiser. Et donc idéalement, 1 heure avant de dormir, c'est bien de couper tous les écrans, de lire un bouquin, écouter de la musique, discuter avec son chéri et mettre une lumière tamisée parce que le corps est très sensible à la lumière. Pour lui, nuit égale sommeil. Donc quand on tamise la lumière, le corps reçoit un signal qui lui permet de commencer à produire de la mélatonine qui va permettre de pouvoir s'endormir. Il se prépare au sommeil en quelque sorte. Et sur ce registre, du coup, avoir un rythme régulier aussi, ça permet au corps de savoir quand commencer à produire de la mélatonine. Le corps, il aime les habitudes, ça lui permet de beaucoup mieux se réguler. Donc si vous avez la possibilité d'avoir 1 heure de sommeil fixe, c'est vraiment top. Et une autre donnée, c'est que les cycles de sommeil sont à peu près 1h30 en moyenne, donc essayez de viser une durée de sommeil qui soit entre 5 et 6 cycles, donc 7h30 à 9h de sommeil. Et essayez d'éviter quelque chose qui tombe entre les deux au risque de couper un cycle et de vous réveiller plus fatigué. Et puis la caféine, bien sûr, ça joue aussi un rôle sur la qualité du sommeil, donc mieux vaut éviter d'en prendre après 14 heures. Donc voilà, je vous donne plusieurs axes, surtout prenez ce qui vous parle, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez trop contraint. Il y a vraiment plein de choses à faire, donc prenez ce qui vous parle et ce que vous avez vraiment l'impression que vous serez capable de faire. Certains mettront en place plus facilement les étirements, certains vont mettre en place plus facilement le fait de couper les écrans le soir, certains auront aucun mal à couper le café. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a juste ce que vous sentez être bon pour vous, que vous sentez être prêt à mettre en place dans votre vie. Il n'y a pas d'injonction, il y a juste des conseils, donc vous choisissez ce que vous avez envie ou non d'appliquer. Et ensuite l'activité physique, alors attention parce que l'activité physique en elle-même, elle active le système sympathique. Quand on fait de l'activité physique, on se mobilise. Donc déjà, en fonction de ce que vous faites, ne le faites pas juste avant d'aller dormir. Si vous faites des activités douces comme le yoga ou la marche, vous pouvez le faire 1 heure avant. Si vous faites du HIIT ou de la course, mieux vaut prévoir plusieurs heures. Sinon, quand vous allez aller vous coucher, vous serez encore activé dans votre système nerveux. Ensuite, si vous êtes quelqu'un de très anxieux, c'est mieux d'éviter les activités trop intenses qui vont fortement solliciter votre système sympathique et du coup de préférer des activités douces où vous aurez plus de facilité à repasser en mode parasympathique, comme le yoga par exemple. Donc pourquoi l'activité reste bonne alors qu'elle mobilise notre système? Parce qu'elle permet de sentir son corps, elle permet de renouer avec ses sensations, avec sa respiration, et puis elle va aussi libérer des hormones comme la dopamine, qui est une hormone de bien-être. Normalement, après une séance de sport, vous allez retomber dans le système parasympathique et vous allez vous sentir bien, apaisé. Et c'est pour ça que c'est important de faire des activités douces si vous êtes très anxieux, parce que vous risquez de vous sentir encore plus stressé si vous faites quelque chose de très intense, et donc d'obtenir l'effet inverse si vous sollicitez trop votre système sympathique. Donc voilà un petit peu pour les différentes habitudes que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous aider à réguler votre système nerveux. Voilà, l'épisode touche à sa fin, j'ai déjà dépassé un peu le timing habituel et je veux respecter à peu près le format, donc j'aborderai les réflexes à avoir en cas de crise de panique, de bouffée d'anxiété dans un prochain épisode. Je pense qu'on a juste survolé le sujet, qu'il y a encore de quoi dire largement pour un second épisode, donc je vous prépare ça pour une prochaine fois. En attendant, si je devais résumer les principaux messages de l'épisode, je dirais d'abord que le système nerveux est composé du système parasympathique ventral, qui est le mode de repos, d'engagement social dans lequel on peut se projeter, rêver, créer du lien et de la confiance, et de deux systèmes de défense, le sympathique, qui est le mode de mobilisation, combat et fuite, et le parasympathique dorsal, qui est le mode immobilisation. En deux, il est important d'avoir un système nerveux régulé, c'est-à-dire qui est capable de passer en mode repos et engagement social régulièrement pour pouvoir appliquer les principes du développement personnel dans sa vie quotidienne. En trois, pour réguler son système nerveux, il existe plein de petites habitudes simples à mettre en place dans sa vie pour réapprendre à son système nerveux à repasser régulièrement en mode parasympathique ventral, que ce soit au niveau du sommeil, de la posture, de la respiration ou de l'écoute de son corps. Et puis en 4, malgré tous ces conseils, faites toujours ce qui est bon pour vous. On l'a dit, le principal c'est d'écouter son corps, vous savez ce qui est bon pour vous, mieux que quiconque, à condition que vous vous mettiez à écouter votre corps. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour comprendre comment fonctionne votre système nerveux et l'impact qu'un système dérégulé peut avoir dans votre vie. J'espère que ça vous a donné des idées et des choses à mettre en place dans votre quotidien pour passer plus facilement dans le mode parasympathique et que ça vous aidera à mieux gérer votre anxiété. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire sur Insta, sur le profil de la Feel Better Community. Et puis si vous voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui annonce la sortie du podcast et le thème de la semaine. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.